Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Et personnalité. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Bonjour. Aujourd'hui, dans Regards croisés, nous aborderons l'énergie en Russie, puissance et renouveau. Le géant russe, ébranlé par le séisme qui l'a secoué dans les années 90, ne s'est pas assoupi. Il s'est relevé et remis en marche en claudiquant de moins en moins. Même si certaines parties de son corps souffrent d'ankylose héritée de son passé, il est animé d'une volonté frénétique pour rattraper son retard. Manne providentielle, le renchérissement des matières premières énergétiques lui confirme des perspectives d'avenir prometteuses. Deuxième plus grand exportateur de pétrole après l'Arabie Saoudite, sa consommation, qui ne représente qu'environ 22% de sa production, lui permet de dégager un fort excédent. Ses réserves lui assurent une production d'environ 17 ans au rythme actuel. Néanmoins, la situation de cette ressource est difficile à estimer car toutes les potentialités de la Russie n'ont pas été explorées dans son large territoire. Une révision de son stock avec ce que l'on appelle les réserves prouvées serait un nouvel élément à prendre en compte et à analyser. Moscou dispose de plus de 30% des réserves mondiales de gaz, ce qui en fait le premier producteur au monde devant l'Iran et le Qatar. C'est le premier exportateur mondial et ses réserves lui permettent une production d'environ 75 ans en rythme actuel. Quant au nucléaire, on oublie trop souvent que la Russie est avec les États-Unis, la France et le Japon l'un des tout premiers acteurs. Une collaboration intensive en matière de sécurité nucléaire existe dès le début des années 90, notamment dans le cadre de la WANO, la World Association of Nuclear Operators. Par ailleurs, la Russie dispose sur son territoire de ressources d'uranium, la mettant à l'abri d'une quelconque dépendance dans ce domaine. Enfin, n'oublions pas le charbon. Deuxième rang des réserves mondiales, derrière les États-Unis, elle n'est aujourd'hui que le cinquième producteur derrière la Chine. Les États-Unis, l'Australie et l'Inde. Ces réserves sont susceptibles d'être utilisées pour son propre développement. L'énergie devient une denrée rare et convoitée au moment où s'affirment les besoins des pays émergents et où ne semble pas décroître, bien au contraire, l'appétit des pays industrialisés. Ceux qui disposent de réserves énergétiques ou qui viendraient à les contrôler sont en passe de devenir les arbitres du jeu international. Voilà une opportunité que la Russie ne saurait laisser passer. Avec un réalisme parfois brutal, elle entend bien profiter de cette situation. Au plan régional d'abord, en continuant à peser sur son étranger proche, notamment en Ukraine, pays qui, pour des raisons historiques, identitaires, économiques et stratégiques, occupe une place prioritaire. En Azerbaïdjan et au Kazakhstan, qui eux aussi bénéficient de la manne énergétique, mais aussi en Pologne et dans les pays baltes. Sans surprise, on relèvera que dans cet étranger proche, la Russie est le premier investisseur dans le secteur énergétique. Au plan européen, la difficulté pour l'Union européenne est d'articuler sa politique de voisinage et son partenariat avec la Russie, qui connaît une dynamique propre. L'Union européenne, qui a publié un livre vert intitulé « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », s'inquiète de la faible diversité de ses approvisionnements énergétiques, notamment gaziers. En effet, la Russie livre à elle seule 16% des importations européennes de pétrole et jusqu'à 25% de gaz. À l'inverse, ce secteur contribue à plus de 40% du budget fédéral russe. Soulignons aussi que les relations de la Russie avec ses grands clients sont négociées dans un cadre bilatéral. C'est le cas pour Gaz de France et Gazprom, qui ont signé un contrat d'approvisionnement jusqu'en 2030. Au plan économique, après la reprise en main des secteurs stratégiques, il s'agit de doper son industrie et le secteur de la recherche avec les devises que le marché pourvoira. mais aussi de tirer profit de l'économie mondiale par des placements judicieux de capitaux et des participations dans les grands groupes mondiaux. À ce titre, la prise de participation dans EADS, le rachat de Getty Oil Distributions aux États-Unis ou encore le poids de Gazprom, devenu aujourd'hui la troisième capitalisation mondiale, sont autant d'indices d'un nouvel équilibre en gestation ou d'acteurs à prendre en compte. Enfin, au plan international, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, membre du G8, enfin admis à l'OMC, rejetant le PEP, mais acteur moteur, pour ne pas dire fondateur, dans la réalisation du projet ITER, qui est un projet de fusion thermonucléaire contrôlée dont le centre de recherche est installé à Karadash, dans le sud de la France, la Russie est aussi présente au sein de l'organisation de Shanghai avec les pays d'Asie centrale et la Chine. La diversité des partenariats énergétiques est un objectif prioritaire pour le gouvernement russe. Dans la rhétorique gouvernementale, le marché des énergies fossiles, dont la Russie doit émerger comme le pivot du futur, joue le rôle de vecteur d'expansion de son influence géopolitique. Si par son histoire, l'étendue de son territoire et l'importance de ses ressources naturelles, la Russie reste indubitablement une grande puissance, c'est une puissance marquée par plusieurs paradoxes. Une attirance naturelle pour la sphère européenne, mais une ambition intercontinentale. Une volonté de s'intégrer dans le modèle économique occidental, mais des réflexes nationalistes très forts. D'importantes disponibilités financières liées aux exportations énergétiques, mais des investissements technologiques très faibles. Demain, si les cours du pétrole et du gaz se stabilisent ou augmentent, la Russie disposera à l'horizon 2010-2015 d'une rente qui pourrait lui permettre de développer son industrie, non seulement dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique ou l'électronique, concurrençant ainsi les pays occidentaux dans leur domaine d'excellence. Trop souvent, nous envisageons ce que j'appellerais l'affrontement en focalisant notre attention sur les rivalités économiques et financières à l'intérieur de notre monde occidental. Or, les normes et procédures du type Sarbanes-Oxley ou encore les nouvelles régulations européennes vont alourdir notre compétitivité et la marge de manœuvre de nos groupes industriels. A contrario, elles sont un avantage dans l'intégration et la recherche de prises de participation pour les nouveaux acteurs que sont la Russie, la Chine ou l'Inde dans les secteurs stratégiques. Les nouveaux entrants bénéficient ainsi aisément de notre complexe de supériorité. Donner de la voix, donner le ton en jouant sur les cordes sensibles d'un monde sous perfusion, dépendant du réseau oriental d'oléoducs et de gazoducs, comme autant d'artères vitales. Voilà un exercice subtil et audacieux auquel les dirigeants de la Russie semblent pouvoir se livrer. Tant que des voix dissonantes ne se font pas entendre en son sein. Cette émission est disponible en libre téléchargement sur Canal Académie. Je vous remercie.